Bienvenue aux 5 livres, l'émission littéraire d'Académ pour sa 22e édition. Aujourd'hui, nous recevons le traducteur Johannes Honigmann, venu tout spécialement de Berlin, le critique littéraire et écrivain Vincent Jory, et l'éditrice et traductrice de l'allemand, elle aussi, Brigitte Quint et Rudan. En leur compagnie, nous parlerons de Stefan Zweig, de Theodor Herzl et d'autres éminents sionistes, et puis d'une grand-mère juive, car il n'y a pas que les mères juives dans la vie. Et puis, à la fin de l'émission, je vous ferai part de mes deux coups de cœur, un roman dans le milieu des diamantaires juifs d'Anvers, de Michael Dichter, c'est un premier roman. Et puis également un livre très original, 22 Mapsbury Road, de Rachel Cockrell. Je ne vous en dis pas plus, ça sera à la fin, bien sûr. Alors, j'ai envie de commencer par Stefan Zweig, bien que ma première réaction en découvrant ce livre, dont vous êtes la co-traductrice avec donc Claudine Delfis et la co-éditrice, je me suis dit, il y a encore des lettres de Stefan Zweig qui paraissent et qu'on ne connaissait pas.
Mais oui, j'ai l'impression qu'en France maintenant, quand il y a un nouveau volume Zweig qui paraît, beaucoup de gens sont étonnés qu'effectivement la mine soit encore féconde. Oui. Et oui, il y en aura encore possiblement beaucoup. J'ai lu tout récemment qu'on estimait entre 30 et 50 000, donc il y a quand même une marge importante, le nombre de lettres qu'il aurait écrites.
Alors là, l'originalité, voilà. C'est que ce sont exclusivement des lettres à des amis français.
Voilà.
Alors, il y a 424 lettres et cartes, parfois des cartes postales, ouais. Même des télégrammes.
Quelques télégrammes.
58 destinataires, la plupart. Des écrivains, des poètes, des journalistes, pas que, mais en majorité. Et donc, ça s'échelonne entre 1909 et 1942. Le titre, Je ne me suis jamais senti un étranger en France. Oui. Bon, ça confirme la francophilie, la francophonie de Zweig. Ça explique aussi un peu de son succès chez nous, qui est un succès exceptionnel, on va y revenir. Oui. Mais ce titre, il n'est pas un peu en résonance avec aujourd'hui?
Certainement. C'est pour ça, sans doute, qu'il nous a tout de suite...
Vous l'avez choisi.
On l'a choisi.
Avec donc,
c'était une interview de 1940, à l'occasion de du dernier passage à Paris de Zweig, quelques semaines avant l'arrivée de la Wehrmacht à Paris, d'ailleurs.
Et ça résonne aujourd'hui.
Et ça résonne aujourd'hui, absolument.
D'une certaine manière.
Absolument, oui.
Alors, vous l'avez choisi à deux, donc avec Claudine Delfis, qui n'est pas là puisqu'elle est disparue, hélas, il y a 2 ans, à peu près.
À peine, oui.
Oui. Qui vivait à Berlin, oui. Et qui est germaniste comme vous, et qui a co-traduit. Alors, je le disais, la plupart sont écrites en français.
Oui, c'est ça. C'est vraiment pas c'est pas une traduction.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Zweig est un auteur mondial.
Oui.
Il fut un temps où il était vraiment lu dans le monde entier, ou presque. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais le succès en France ne s'est jamais démenti. Oui. C'est même un cas, à ma connaissance. En tout cas, chez les auteurs de langue allemande, c'est un cas. Et ça a duré quand, vous expliquez ce succès?
Il y a eu quand même un petit purgatoire dans l'immédiate après-guerre,
ah bon,
où quand même les intellectuels de gauche tenaient le haut du pavé, et où Zweig était quand même un peu vu comme un héritier fortuné à qui tous les succès sont arrivés, ce qui n'était pas faux, mais sans tenir compte peut-être de ses convictions spiritualistes et pacifistes et européennes. Et voilà. Et donc il y a eu quand même un comeback, si je peux me permettre, à la fin des années 80, début des années 90. Où on a revisité les romans et nouvelles, par exemple pour cette collection de la Pochothèque à laquelle nous avons activement contribué. Oui.
Par rapport aux grands...
Et ça, c'est avant même le passage dans le domaine public,
oui.
En 2013,
voilà.
Où là, les livres se sont mis à... Voilà,
tout le monde
s'y est mis.
Mais par rapport à d'autres grands auteurs de langue allemande du XXe siècle, Thomas Mann, oui. Arthur Schnitzler, Robert Musil...
Oui.
Quand on interroge les Allemands, en général, ils font la fine bouche avec Zweig en disant « bon, ce n'est pas un styliste ». Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, alors... Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que peut-être la langue de Zweig a un peu vieilli. Elle comporte des austriacismes, des particularités. Ça dépend des textes, évidemment. Mais elle a... Oui, je pense qu'elle a vieilli. Or, il y a tout de même un phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la langue originale, le texte est né varietur. Une fois qu'il a été publié, il demeure. Alors qu'avec une traduction...
Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce volume, où il y a quand même des lettres inédites... Hein,
ah, c'est pratiquement...
Pratiquement, hein.
Enfin, les deux tiers sont inédites, et celles qui ne sont pas inédites étaient dans des petites revues,
oui,
à droite, à gauche, et pas du tout accessibles au grand public.
Alors, on retrouve sa curiosité, son éclectisme, son cosmopolitisme. C'est finalement pour ça qu'il est tant aimé aussi.
Oui.
Et ça se retrouve dans le volume.
Oui. Et puis, alors, je pense, les cas humains qui apparaissent dans l'œuvre de fiction.
Il a des correspondants français, bien sûr, parce que c'est des lettres à des amis français.
Oui.
Formidable. André Suarez, dont on ne parlera jamais assez.
Oui.
André Gide, Alfred Cortot, le pianiste. Paul Valéry, Marie Bonaparte.
Oui.
Notamment pour ses traductions de Freud, Roger Martin Dugard, Georges Duhamel, Henri Barbus, Albert Schweitzer, Romain Rolland et bien sûr Jules Romain.
Oui.
Pour tous ces gens-là, c'est l'ami autrichien, pas allemand, autrichien.
Autrichien, même si lui-même fluctue un peu sur ce point. Il y a des lettres d'ailleurs où il dit « nous » et c'est manifestement le monde germanique, sans faire de distinction entre l'Autriche et l'Allemagne. Et il y a au contraire des lettres, et ça dépend quand même aussi de la période, évidemment, où tout d'un coup il dit « nous » et ce sont les Autrichiens.
Zweig est donc l'ami autrichien pour tous ces gens-là. Mmh. Est-ce qu'il est aussi l'ami juif ?
Ça dépend pour qui, mais en gros, non. Parce que c'est quand même un juif assimilé, c'est quelqu'un qui... Alors, sauf quand il écrit, par exemple, à André Spire. André Spire, qui est tout de même présent par une dizaine de lettres ici, qui est un poète et un sioniste
engagé, militant
dès 1910, hein, dès les premières périodes évoquées par ce livre. Et on en trouve la trace dans le journal de Zweig pour ses séjours parisiens en 1913 et 1914. Il rencontre et il croise André Spire à plusieurs reprises. Et il le retrouvera par hasard dans un petit restaurant à New York en 1941. Avec
New
sa
York,
seconde femme.
Il vivait en exil avec l'auteur.
Alors oui, il était parti. Et, bon, en exil, bien sûr, de facto, c'est un exil. Mais en réalité, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il est parti avec donc, sa deuxième épouse, Lotte, en juin 40, fin juin 40, avec le souhait et le désir de revenir en Angleterre quelques semaines, voire quelques mois après. Et il était parti pour une tournée de conférences qui était prévue déjà 6 mois auparavant. Et les événements ont fait qu'il n'est jamais rentré.
Il y a quelque chose qui est évoqué, j'ai jamais entendu parler, c'est avec Anton Klippenberg, c'est un projet de Bibliotheca Mundi.
Ah oui, ah oui, vous n'aviez pas entendu
parler
de ça.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors la Bibliotheca Mundi, oui, c'est ça fait partie de tout un projet suggéré par Zweig à son éditeur Klippenberg, de l'Insel Verlag à Leipzig, qui est une des belles grandes maisons d'édition allemandes, qui existe d'ailleurs toujours. Son idée, c'est de donner des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, la Weltliteratur de Goethe, hein, dont la notion remonte à Goethe. Et son idée, c'est de donner les textes originaux. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur Académie, il avait prévu, et je crois que ça a été réalisé, une anthologie de poésie hébraïque.
Ah oui. C'est un peu surprenant de sa part. Parce que,
oui, mais oui, il y avait de la poésie russe, de la poésie anglaise, évidemment, française. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il s'est adressé à Georges Duhamel. Et pas à un professeur d'université.
Ah oui.
Enfin, je sais pas, c'est un sujet peut-être intéressant.
Les universitaires, ce n'est pas vraiment son monde.
Voilà, ce n'est pas du tout son monde.
C'est un écrivain, c'est un collectionneur d'autographes.
Un collectionneur
très important,
passionné.
Très important, un bibliophile. Alors, ce qui est confirmé par les lettres que vous avez éditées et publiées, c'est que c'est rare, c'est un écrivain qui a le culte de l'amitié, vraiment. Il a beaucoup d'amis et il cultive ça, il leur consacre du temps. Il les a aidés financièrement à New York. Ou même à Paris, Joseph Roth, par exemple. Et ce qui apparaît, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au-delà de l'amitié, c'est un intermédiaire.
Voilà.
Un go-between, un intercesseur.
Ouais.
Il présente les gens entre eux.
Ouais. Et nous, on est tombé sur une expression qu'on a retenue et qu'on reprend dans notre propos, qui est celle de cross-pollinator, c'est-à-dire le pollinisateur tous azimuts.
C'est un peu barbare quand même.
Oui, Vous trouvez barbare. Bah, nous, on a trouvé ça vraiment amusant.
C'est rigolo, je ne connaissais pas. Grosse pollinateur. Enfin, si vous dites ça comme ça,
de quoi parle-t-elle? Oui, oui. Mais sinon, c'est un passeur. Il y a moult lettres où il s'engage à chercher un éditeur en Allemagne ou à essayer de faire monter une pièce. Et il fait ça. C'est une seconde nature, je pense.
C'est l'art de faire circuler les personnes, les idées.
Oui. Et c'est aussi, je pense, le carburant de ça, c'est l'enthousiasme. Zweig est vraiment quelqu'un qui s'enthousiasme pour un texte. Quelquefois, il se trompe. Quelquefois, il fait un grand éloge de quelqu'un qui ensuite est complètement tombé dans l'oubli. Mais je pense qu'il est sincère. Et je pense aussi que ça lui est venu de Verhaeren. Puisqu'il y a eu quand même le grand mentor Romain Rolland, mais auparavant, c'était Verhaeren, le poète belge.
Émile,
le grand lyrique belge.
Il a bien vu en quoi, on voit bien en quoi Zweig est un... Je crois que l'expression est de Montaigne, une libre comète, c'est ça, non ?
Oui, une libre comète.
Libre comète. Oui. Moi, j'aurais plutôt dit un électron libre.
Enfin, oui, pareil, non, mais c'est vrai.
C'est la même chose.
Oui. Un électron libre, mais quand même basé à Salzbourg. Et bon, Salzbourg, pour lui, c'est le centre de l'Europe. Jusqu'au moment où ça devient un peu trop proche de Berchtesgaden et de Munich et des méchants de l'autre côté de la frontière.
Heureusement que ce sont deux femmes qui ont édité ce volume, c'est-à-dire vous ainsi que Claudine Delfis, parce que si ça avait été un homme, on dirait, mais quelle misogyne. Il n'y a pas de femmes.
Il n'y a pas de femmes.
Pratiquement pas. Marie Bonaparte.
Il y a une lettre à Colette, qui est surprenante. Il y a une lettre à Pauline de Pange. Oui, alors je ne sais pas. C'est un peu... Certains de ses amis disent qu'effectivement, il était quelquefois un peu gêné dans les relations avec les femmes.
Ah oui. Oui, bon.
Gêné pour s'exprimer, je ne sais pas.
C'est pas un misogyne pour autant.
Par ailleurs, il dit qu'il se perçoit et il a fait l'expérience d'être un grand séducteur. Donc peut-être que l'aspect séduction possible ou virtuelle avec une femme, quelque part, venait interférer d'une façon je ne sais pas. C'est une hypothèse.
Alors évidemment, on va jusqu'à 42 et vous évoquez sa mort volontaire et vous parlez, alors, en ce qui concerne l'auteur, d'euthanasie parce que l'asthme, elle avait des crises d'asthme terribles et que là, vous parlez d'euthanasie...
C'est pas spécialement pour elle.
Non.
Pour les deux.
Mais pour lui, vous parlez d'apothéose glorieuse. Le suicide, une apothéose glorieuse.
Il s'est trouvé que ça s'est transformé en une apothéose glorieuse, dans la mesure où, à Rio, on lui a fait, à Petropolis, on lui a fait, il y a eu un deuil national et des obsèques grandioses, alors qu'il avait demandé explicitement l'inverse, d'ailleurs. Mais ce qui nous apparaît vraiment de plus en plus, et nous réfléchissons et nous mûrissons cette question depuis longtemps, c'est que c'est vraiment une mort volontaire c'était une décision qui flottait depuis, qui était dans l'air depuis plusieurs années. Et ce qu'on constate quand même, c'est que parmi les juifs autrichiens, à partir de 1938, il y a des suicides en masse. L'idée du suicide, elle est là. C'est une possibilité qui est là. En 1939, Zweig écrit dans son journal qu'il a une petite fiole. Il a deux petites fioles qui sont toutes prêtes.
Oui,
en 1939 déjà, à Londres.
En général, ceux qui parlent du suicide de Zweig évitent de parler... Enfin, ils parlent de la situation de l'Europe, des espérantes et tout. Mais ils ne parlent pas de sa dépression qui est très ancienne.
Oui, enfin, ce n'est pas une dépression comme on le dit aujourd'hui.
Dépression mélancolique.
Non. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Non.
Vous ne pensez pas que c'est l'aboutissement d'un état ancien ?
Non. Non, Zweig, enfin, moi, d'après tout ce que je connais et tout ce que j'ai le lit de Zweig, etc., ce n'est pas du tout quelqu'un de dépressif. C'est quelqu'un qui peut avoir des crises de découragement. Il parle de sa bile noire de temps en temps. Oui, mais ce sont des accès. Oui. Et il écrit aussi que quand il est comme ça, il travaille comme un diable. Il travaille comme sept diables, d'ailleurs, il écrit exactement dans une lettre à son éditeur new-yorkais. Donc, c'est pas du tout... Il ne faut pas du tout s'imaginer ça comme on parle aujourd'hui de quelqu'un de dépressif qui est complètement brisé, amorphe,
etc. À quoi attribuez-vous son suicide ? Autant elle, c'était pour arrêter de souffrir.
Oui.
Parce qu'elle souffrait de cet asthme terrible, mais lui...
Notre hypothèse, quand même, c'est aussi que le travail entre eux devenait très difficile. Et, or, il constituait quand même une sorte d'équipe chacun ayant son rôle, évidemment. Je ne dis pas qu'elle co-écrivait avec Zweig. Mais on suit d'ailleurs bien ces relations dans ce livre-là qui s'appelle « J'aimerais penser que je vous manque un peu, les lettres à l'auteur ». Oui, qui est la tranche 34-40. Et ce qu'il faut, enfin, il nous semble vraiment que pour Zweig, le cap des 60 ans a été... pas fatidique, mais enfin, a été très, très important. Il se sentait un très vieux monsieur à 60 ans. C'est surprenant, parce que même à cette époque-là, il sait très bien qu'il y a des écrivains qui restent actifs et qui continuent beaucoup plus tard que ça. Mais il était aussi, je crois, conscient que jamais il ne retrouverait la position qu'il avait eue d'influence et de respect et d'échanges fructueux avec beaucoup d'écrivains.
Personne n'ayant vécu la guerre ne pouvait dire quoi que ce soit sur ce qui se passerait après la guerre. Thomas Mann, en rompant avec la terre natale, ne savait pas du tout ce qui allait devenir. Bon, mais c'était tout le monde, ça.
Oui, mais la psychologie de Thomas Mann est quand même très différente. Quand vous pensez qu'en arrivant à New York, en 36, 37, Thomas Mann déclare « Je suis la culture allemande ».
Oui.
Ça a dû l'aider quand même.
Il n'était pas animé par la haine de soi, manifestement. Ouais. Mais,
Zweig a quelque chose de modeste.
Oui, mais chez Zweig, il y a
malgré
aussi une incapacité à s'engager véritablement quand on lui demande de le faire. Le Pen Club à New York était déçu. On lui disait « Allez, venez à la tribune, dites quelque chose, vu votre aura ».
Le Pen Club en Argentine, à Buenos Aires.
Non, mais à New York aussi.
Ah non, 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 à New York. À New York, je crois que c'est Jules Romain qui a tenté de créer une... Mais au contraire, là, Zweig a soutenu Jules Romain. Il me semble qu'il a participé à des réunions.
Il était venu, mais il ne voulait pas aller à la tribune. D'accord. Il a fallu le forcer.
D'accord.
L'obliger.
On sait pourquoi, il ne voulait pas physiquement...
Alors, je vais peut-être vous choquer, mais déjà, en 1933... Klaus Mann a été le voir. Klaus Mann qui était très militant, en lui disant « Vous comptez pour nous, aidez-nous, engagez-vous. » Et il disait « Écoutez, les SS, ce n'est pas ce que vous croyez. Hein. » Ils sont un peu...
Non.
Ah si.
Ah non, là, vous allez trop loin.
Non, non, je vous assure. C'est ce que Klaus Mann raconte dans ses lettres.
Oui.
Ah si.
Pas les SS...
Si, vous verrez. Mais enfin, peu importe.
Oui.
Il ne s'est pas engagé à ce moment-là non plus.
Mais je pense que l'idée directrice de Zweig dans toute cette période-là, c'était... Tout ce qu'on peut faire pour les Juifs, pour les Juifs allemands qui sont sous la botte nazie, va se retourner contre eux. Et donc, il avait en permanence peur que ça se retourne contre les gens qui étaient dans le pays et qui n'en pouvaient mais.
C'est une des raisons de son retrait.
Mais il a quand même essayé des tas de choses.
Oui.
Il a essayé de faire des manifestes, de rassembler des rabbins. Il y a eu des épisodes en 1935 où il a essayé avec un grand rabbin de Prague et de Vienne. Et ils se sont pas mis d'accord. Alors, et Zweig avait écrit un truc de 4 pages, un projet de manifeste sur 4 pages. Il était quand même très, très concerné et bouleversé par tout ça. Mais il considérait que tout ce qu'il ferait ne ferait que se retourner contre les Juifs en Allemagne. Enfin voilà, j'ai l'air de le défendre là comme si
c'était... C'est normal, vous lui avez consacré plusieurs livres, c'est la moindre des choses.
Je trouve qu'on l'accuse souvent de façon un peu facile.
Avec le recul, c'est facile.
En tout cas, il n'y a pas de lâcheté. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de lâcheté.
Une difficulté à s'engager.
Politiquement, parce que la politique politicienne et la politique...
Il n'aime pas ça.
Oui, il n'aime pas ça depuis le début.
Il n'est pas à l'aise. Alors vous vivez à Berlin.
Oui.
Vous êtes traducteur de théâtre, surtout, et
de
littérature.
Non, j'ai été traducteur de théâtre. Mais ça fait
vous
très longtemps.
Vous l'avez été.
Ah, mais surtout, je l'ai été surtout il y a 20 ans au début. Mais,
oui.
Voilà.
Mais non, littéraire.
Oui. Une page tournée.
Beaucoup plus. Mais par exemple, vous avez traduit le fameux livre de Martin Luther.
Oui,
le mensonge des Juifs, là. Des Juifs et de leurs mensonges.
Oui.
C'est pas trop éprouvant comme texte à traduire.
Ce projet de traduire ce texte anti-juif de Luther, c'est un projet qui émanait en fait de ce médiéviste Pierre Savy. Et Pierre Savy donc est juif. Et moi-même je le suis aussi. Et donc il fallait qu'un duo de juifs
allemand.
S'attaque. Ouais.
Le
s'attaque
juif
à ce... Non, mais il est pas allemand, Pierre Savy, il est français.
Non, mais vous.
Oui, moi. Oui, mais non, mais l'important c'est la judéité. Seuls des juifs ont le droit de traduire un texte anti-juif. Voilà.
Oui.
Enfin, oui. C'est pas une loi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moralement, c'est la seule possibilité.
En voyant cette couverture, d'abord cette brochette magnifique de contributeurs, et puis d'une nation juive ou non, controverse vienne. J'ai pensé, je me suis dit, ben finalement, c'est un peu comme il y a eu une fameuse dispute de Barcelone en 1263, et même une controverse de Valladolid, bien plus tard, en 1550, il y a eu une dispute de Vienne.
Oui.
Bon, ce n'est pas aussi frontal que les deux autres, parce que ce sont des textes juxtaposés. Mmh. Ils n'ont pas été dans un tribunal, etc., ensemble. Mais ça m'a fait penser à ça, au sens de la dispute d'autrefois. Donc on est en 1897 à Vienne. L'État juif, ou l'État des Juifs, est paru, le Théâtre de Herzl est paru un an avant. Celui qui lance la polémique, parce que c'est une polémique entre sur finalement qu'est-ce que le sionisme, c'est le premier, c'est Moritz Gudemann,
oui.
En publiant un texte qui n'est pas un texte radical du tout, dans lequel il se pose des questions par rapport à celui de Herzl qui vient qui lui, il y va. Mais le celui de Gudemann, il se pose des questions. Et déjà, ce fait de se poser des questions sur la nécessité de donner un État au peuple juif, déjà, il pose les jalons. C'est ça qui vous a donné envie d'aller plus loin ?
Bon, en fait, juste pour revenir sur Vienne, parce que ce qui est intéressant, c'est Vienne, c'est vraiment le creuset de l'Europe centrale à cette époque, parce que c'est une controverse qui s'est passée à Vienne dans les journaux viennois, mais les quatre acteurs ne sont pas viennois eux-mêmes. Et leurs textes sont publiés dans des organes viennois, parce que c'est vraiment le... S'il fallait se faire entendre, il fallait se faire entendre à Vienne. Voilà.
La capitale de l'Autriche-Hongrie.
Voilà, c'est ça, la capitale de l'Autriche-Hongrie et du sionisme politique. Parce que le sionisme avait plusieurs... Il y avait le sionisme religieux, le sionisme pratique, le sionisme politique, qui est celui de Herzl. Enfin, il y avait différents courants, mais disons, le courant qui, à ce moment-là, était celui qui prévalait, était le sionisme politique. Et la capitale du sionisme politique, c'était Vienne, tandis que le sionisme pratique était plus à l'est, c'était Odessa, c'était Lviv, etc. Et le sionisme religieux était encore plus atomisé. Mais voilà, bon, donc pour ça, c'est pour ça Vienne. Mais qu'est-ce qui m'a donné, qu'est-ce qui a impulsé la publication de ce livre ? C'est il faut remettre les pendules à l'heure sur l'antisionisme.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, parce que. Il n'y a qu'un antisionisme légitime, c'est l'antisionisme de cette époque-là, qui précède la création de l'État d'Israël.
Qui précède tout ce qui, de 50 ans. Hein.
Ah oui, l'antisionisme en tant que réaction au sionisme, c'est-à-dire que thèse, antithèse, voilà. Bon, il y avait, mais disons comme le sionisme s'est accompli, le projet sioniste a été réalisé. Donc maintenant, nous sommes dans le post-sionisme. Autrement dit, nous avons quitté la dichotomie antisionisme-sionisme. Maintenant, on est pro-israélien ou anti-israélien. Mais ces gens qui se disent antisionistes sont en fait anti-israéliens. Tout simplement, ils sont anti-israéliens. Ils ne devraient pas dire « nous sommes antisionistes ».
Pardon, je ne sais pas si vous les connaissez bien, mais le slogan du fleuve à la mer, très clairement et en toute conscience, signifie pour eux l'éradication de l'État d'Israël.
Bien sûr, oui.
Mais ce n'est pas... C'est pas uniquement les Israéliens, c'est l'État même. Vous parlez de post-sionisme comme si le fait qu'il y ait eu l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, c'était acté. Non, c'est pas acté. Pour eux, ils veulent un État de Palestine qui annihile complètement les structures de l'État israélien.
Absolument, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut démasquer la supercherie. La supercherie, c'est les gens disent « nous sommes antisionistes ». Non, ils ne sont pas antisionistes, puisque l'antisionisme, le seul antisionisme qui ait jamais existé, c'était l'antisionisme historique, celui qui s'opposait au sionisme tout aussi historique, pré-création de l'État d'Israël. Tout ce qui a lieu maintenant, depuis la création de l'État d'Israël, c'est de l'anti-israélisme ou de l'antisémitisme. L'anti-israélisme veut l'éradication d'Israël. L'antisémitisme veut l'éradication des Juifs. Les deux font la paire, etc.
Donc c'est ça qui vous a...
Quand Jean-Luc Mélenchon et sa bande disent « nous ne sommes pas antisémites, nous sommes antisionistes », désolé, ils sont antisémites et anti-israéliens. L'antisionisme, c'est celui de... de Gudemann ou d'autres. Voilà, Gudemann, certains des arguments de Gudemann, parce que vous dites, voilà, il était, c'est quand même assez posé, mais certains arguments vers la fin sont assez violents quand même.
Alors, il faut quand même juste dire ça, parce qu'il est moins connu que les autres, c'est le grand rabbin de Vienne.
Oui, et un grand historien aussi.
Voilà. Donc oui, il a un point de vue qui est adossé quand même à la tradition, à la foi, à la religion, ce qui n'est pas le cas des autres, nécessairement. En tout cas, pas Herzl. Pas
Herzl. Oui, non.
Et bon, dès le départ, vous dites la fin est assez radicale, la fin de son texte. Hein, oui. Parce que c'est un texte qui a été publié dans une revue. Mmh. Et c'est ça qui a lancé la polémique.
En fait, il a fait publier cette brochure juste avant le congrès de Vienne, parce que
le premier congrès sioniste.
Voilà, et c'était comme une sorte de, comme dans le train, voilà, on tire la sonnette d'alarme, enfin le frein de secours. Enfin, c'était comme s'il voulait au dernier moment intervenir, alors que ce rabbin Gudemann, c'est quelqu'un qui a beaucoup atermoyé. Il a été parfois, il était plutôt pro-sioniste, parfois il était anti-sioniste, il a essayé parfois de soutenir. C'est un peu comme Zadok Khan aussi à Paris. Parce que Herzl a aussi démarché Khan. Herzl a démarché Khan à Paris, il a démarché Gudemann à Vienne.
Il a démarché tout le monde. Hein.
Voilà, les grands rabbins de Londres et tout ça. Oui. Et donc tous étaient un peu indécis, oui et non, etc. Et ça, c'est parce qu'il y avait le sionisme religieux qui se différencie du sionisme politique, mais qui a évidemment des points communs. Il était plus difficile pour les traditionalistes juifs attachés à l'orthodoxie de rejeter complètement le sionisme dès lors qu'une certaine école religieuse l'a épousé. Mais il était facile pour eux de rejeter le sionisme politique herzélien qui avait des tendances anti-religieuses, en fait.
Il y a un détail, je pense que je l'ai lu dans votre livre, mais je ne suis pas sûr. Gudemann, un jour, était chez Herzl pour avoir une conversation au coin du feu.
Voilà.
Et à un moment, il se lève et il s'en va parce qu'il ne supporte pas la présence d'un sapin de Noël.
Oui.
Il dit que c'est une présence à la fois chrétienne et païenne, ce qui est vrai d'ailleurs, et je ne peux pas rester à côté de ça. Ça montre un peu aussi son caractère.
Oui, oui, c'est ça. C'est une anecdote qui a été, qui est célèbre. Et qui en dit long, fait aussi sur Herzl, parce que bon, voilà, Herzl invite chez lui le grand rabbin et il n'hésite pas à, enfin, au lieu de cacher son sapin de Noël, il le laisse en place. C'est-à-dire que quelque chose, soit il est inconscient, soit il est
un peu provocateur.
Voilà, ou un peu provocateur. La religion ne signifiait rien pour lui. Il était, et Nordau va encore plus loin. Nordau est carrément anticlérical. Alors, l'anticléricalisme se marie mal avec le sionisme religieux. Et c'est pour ça que on ne sait pas ce qui se serait passé si Herzl n'était pas mort si tôt, si jeune. Parce que lors des congrès de Bâle qui ont suivi, peu à peu, ce sont les courants du sionisme pratique qui ont pris le dessus sur les courants du sionisme politique qu'incarnait Herzl. Parce que Herzl était contre l'installation de juifs en Palestine aussi longtemps qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance par les grandes puissances. C'est quelqu'un qui, quand Israël était reconnu par l'ONU, ça a été la réalisation du projet herzélien de la façon la plus pure, parce que c'est ce qu'il avait toujours voulu, c'était la reconnaissance politique par en haut. Il voulait pas d'un pays juif qui se construise par en bas. Et le sionisme pratique, mais aussi le sionisme religieux, il voulait que ça se construise par en bas, il voulait que ça se construise par un afflux de personnes, par un retour de la religion, par l'ouverture de yeshivot, etc. Enfin et tout ça, les gens, les mélanchonistes et les autres n'en savent rien.
J'ai chez moi un numéro des Temps modernes de 1967, il me semble, dirigé par Claude Lanzmann, qui fait, je crois, 800, 600 pages, enfin, c'est sur Israël. Et il avait eu l'idée de faire une partie pour Israël, hein, pour faire sioniste et anti-sioniste. Et il y avait un intellectuel qui s'appelait Maxime Renaçon, qui vraiment, enfin, je ne veux pas dire que c'est le Mélenchon de l'époque, mais en tout cas, l'idée...
Non, ce n'était pas un leader politique.
Ce n'était pas du tout un leader politique, mais sur l'idée de d'Israël comme dernier geste de colonisation, tout est déjà là. Oui, ils n'ont rien inventé.
Mais Anderson était marxiste, c'est un islamologue, un arabisant. Bon, il est parti d'un autre point de vue, et puis d'un point de vue marxiste. Sa biographie de Mahomet était d'un point de vue marxiste.
Tout à fait, mais il me semble quand même que Marx n'est pas totalement absent de la LFI, et puis surtout avec cette idée très forte de colonisation, Israël comme colonisation.
Mais à propos, justement, une question au traducteur que vous êtes. J'ai toujours été frappé d'une chose, pendant très longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, le livre de Herzl, son fameux livre, était publié chez un petit éditeur, c'était le seul qui était disponible, et que le titre était fautif dans sa traduction. Le titre, c'était « L'État juif ». Comment on a pu, pendant 50 ans ou 60 ans, imposer, personne n'a eu l'idée de refaire une autre traduction avec l'État des Juifs. « Der Judenstaat », ça ne peut pas être l'État juif, d'aucune manière. Même en interprétant, ça ne peut être que l'État des Juifs.
Non, mais le monde de la traduction, c'est plein d'aléas.
C'est très intéressant sur le plan. Il y a des mots, enfin, je vais y revenir. J'ai quelques mots que j'ai notés. Parce qu'on a affaire à un traducteur qui, de temps en temps, dit là, je ne sais pas, ou plus ou moins, ou là, je ne suis pas satisfait de ma traduction, mais j'en vois pas d'autres.
Bah oui, parce que c'est très. Il faut quand même aussi avoir à l'esprit que le lecteur ne peut pas entrer complètement dans le texte qui lui est proposé, parce qu'il y a l'intermédiaire, qui est le traducteur, qui est là, qui fait aussi un peu obstacle. Genre quand on est intermédiaire, mais on est aussi interposé. Voilà ce que je veux dire. On est le tiers. Il devrait avoir un accouplement entre le lecteur et le texte, et puis il y a quand même le traducteur qui tient la chandelle.
Brigitte qui a venu à mon secours, dit « Armen Juden ». C'est des juifs pauvres ou des pauvres juifs?
Ça peut être l'un ou l'autre.
Ça dépend toujours du contexte.
Oui, bien sûr.
Et du fil de la pensée à l'endroit.
Oui, mais vous avez jugé que c'était quoi?
C'est les juifs pauvres.
C'est les juifs pauvres, mais c'est aussi les pauvres juifs, parce qu'il y a quand même, justement, il faut voir qui écrit et à qui s'adresse-t-il. Le grand rabbin de Vienne, il publie dans un magazine publié à Vienne, la capitale de l'Autriche-Hongrie, mais il parle des masses paupérisées d'Europe de l'Est. Donc il y a quand même aussi une condescendance, un paternalisme de bon aloi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus. En allemand, il y a un proverbe qui est très amusant, qui n'existe pas en français, « Der Ton macht die Musik », c'est le ton qui fait la musique. Et c'est ça, en fait. Et nous, les traducteurs, nous devons retrouver le ton et entendre la musique.
Mais peut-être pas seulement le ton au sens mondain. Mais effectivement,
la sonorité, c'est le son.
Est-ce que c'est sociologique les juifs pauvres, ou est-ce que c'est effectivement avec de l'empathie?
Il y avait une condescendance. C'est le problème qu'il y avait eu dans les années 20 en Allemagne, et puis même au début des années 30. C'est-à-dire que les juifs allemands complètement assimilés voyaient d'un très mauvais œil l'afflux des juifs d'Europe de l'Est. C'est bien connu.
Mais il y a un passage où c'est Max Nordau. Et vous le citez et vous dites « c'est impossible à traduire sans lourdeur ».
Le sionisme entraînera avec la sûreté et la force d'une loi de la nature qui opère mécaniquement un groupement des juifs par classe.
Là, on est au cœur de beaucoup de choses avec les traductions. Il y a Benjamin Ripner, par exemple, quand il dit « l'antisémitisme ne doit pas déterminer la forme que prend le judaïsme ». Là, je trouve que c'est limpide. Tel que vous l'avez traduit, c'est limpide et c'est très fort. En même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vous le disais, je trouve que la réponse, que la deuxième intervention de Herzl au rabbin Goodman, elle est radicale. D'abord, il se moque de lui. Il le tourne en dérision. C'est très ironique.
Tout en gardant les formes.
Il garde les formes.
C'est ça qui est amusant.
Monsieur le grand rabbin, etc.
Il est bien obligé.
Et puis à côté de ça...
Il y a une grande différence d'âge. Quand même.
Oui, le respect. Mais dites donc, qu'est-ce qu'il lui met, si je puis me permettre.
Puisqu'il raconte que Goodman soufflait le chaud et le froid et qu'en fait, il est déconcerté.
Il l'a d'abord encouragé.
Voilà, c'est ça. Mais Goodman, c'était un érudit exceptionnel. C'est quelqu'un qui, c'était une des figures savantes les plus impressionnantes du 19e siècle.
Oui, mais ouais, on a l'impression qu'on a.
Donc le respect est réel.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment lire ce petit livre, ouais. Parce que ces quatre textes, c'est passionnant. Ouais. Ça éclaire effectivement ce qu'on vit aujourd'hui, d'une certaine manière. On examine ça à nouveau frais. Et en même temps, on a quand même l'impression, on est en 97, d'un dialogue de sourds entre eux. Mmh. Parce que par rapport à ce que dit Goodman, qu'est-ce que répond Max Nordau ? Le sionisme n'a rien à voir avec la théologie, mais avec la politique, l'économie, la sociologie, l'histoire des mœurs. Et pour ainsi dire, c'est tout juste s'il ne dit pas, ça n'a rien à voir avec le judaïsme.
Ben oui. Oui, et bon,
ce
qui s'est réalisé en fin de compte, c'est la vision de Herzl et Nordau et pas celle de Goodman et de Ripner. Mais si l'on disait maintenant à ces antisionistes d'aujourd'hui, enfin ces antisionistes, voilà, vous savez, il y avait des arguments très forts en défaveur du sionisme, mais finalement le sionisme s'est imposé, et donc cela signifie peut-être qu'il y avait une logique dans l'histoire qui a voulu que ça se passe. Et ça, c'est un argument que ces gens ne veulent pas entendre, puisqu'ils veulent faire table rase. Ils veulent quasiment remonter le temps. Enfin, voilà, nous voulons repartir de zéro. L'une des expressions que je déteste le plus, qui me reste le plus, c'est l'expression « Israël est une expérience ratée ». Quand les gens disent ça, ben, moi je dirais ben, c'est le Pakistan qui est une expérience ratée. Vous avez vu l'état du Pakistan ? Le Bangladesh, c'est une expérience ratée. Et ce sont des pays qui ont été créés en 1947, un an avant. Donc, voilà.
Vous diriez ça de l'Inde aussi ?
L'Inde fonctionne quand même mieux, mais il y a plusieurs pays d'Afrique. L'Algérie est une expérience ratée, messieurs, dames. Franchement, non mais vraiment. Alors,
après, pardon d'être un peu plus pessimiste que vous, l'avenir nous le dira si c'est une expérience ratée ou pas.
Israël ou l'Algérie ?
Non, Israël.
Non, je pense que c'est une expérience réussie. Et d'ailleurs, en plus, c'est une impertinence d'appeler ça une expérience. C'est pas une expérience. C'est un pays qui a été créé comme ont été créés le Pakistan, le Bangladesh et l'Algérie. Voilà. Et donc,
enfin, pas dans les mêmes conditions, même si c'est.
Pas dans les mêmes conditions, mais à une époque de décolonisation massive, c'était quand même l'époque de. Oui, oui, mais de la dissolution de l'Empire britannique.
Enfin, c'est-à-dire que c'est dans ce contexte. La décolonisation générale, l'affrontement entre laïcs et religieux, qu'on voit bien là, dans ce livre. Si on ne veut pas être trop pessimiste, c'est la prochaine guerre civile d'Israël.
Mmh. Tout à fait. Mais en même temps, ça fait un longtemps qu'on l'annonce, cette guerre civile. Enfin,
entre-temps, il s'est passé des choses quand même.
Mmh. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours par vague. Moi, je suis optimiste là.
Le refus de la conscription pour les Haredim, c'est quelque chose de saillant qui ne se passait pas avant.
Mais oui, et c'est un sujet très grave, mais en même temps, cela fait combien de temps que ça traîne déjà on a l'impression qu'on est toujours au bord de l'éclatement, et finalement, cet éclatement n'arrive pas. Donc peut-être.
Oui.
On se dit peut-être que il y a quelque chose dans la nature du juif, justement, qui est qu'il a toujours besoin d'être au bord du précipice.
Hélas.
Oui, ou c'est ce qui l'incite à être aussi créateur. Genre, voilà, bon, tous ces grands auteurs juifs, ces grands savants juifs, ces grands tous juifs, le génie juif, il est motivé par cette position au bord de l'abîme. De savoir qu'un pas de plus, c'est la chute, donc toujours, voilà.
Oui, c'est ce qui justifie toutes les guerres existentielles d'Israël à chaque fois. Vous l'avez lu, ce livre ?
Oui.
Vincent Jory ?
Oui, oui.
Ça vous a appris des choses ?
Ah, ça m'a non seulement appris des choses, et effectivement, comme ça a été dit, explique que ça, Israël est un pays, on le voit quand on lit ce livre, d'une très grande complexité, même dans ses origines. Il est très compliqué de donner en quelques mots une définition de l'État d'Israël. Et on comprend pourquoi. Puisque c'est une identité qui est mouvante, qui est souple. D'ailleurs, il n'y a pas de constitution en Israël.
Oral, mais il n'y en a pas en Angleterre non plus. Hein.
Oui, c'est toujours l'argument.
je connais l'argument.
Ça dure depuis des siècles. Ça n'aura pas beaucoup de nuit, finalement.
Non.
Donc,
là aussi, on verra avec le temps, mais je suis très pessimiste aujourd'hui.
Moi, ce qui m'inquiète en Israël, c'est que ce soit une gérontocratie, finalement, maintenant. Parce que, bon, Netanyahou, je ne suis pas anti-Netanyahou, mais je trouve que vraiment, ce n'est pas bon pour un pays d'être gouverné depuis si longtemps par quelqu'un qui vieillit dans son jus, quoi. Enfin, vraiment, Place aux jeunes.
On peut le dire pour quelques autres, à commencer par les États-Unis. Hein.
Oui, ou la Russie, etc.
Ou mais la enfin, Russie. Mais c'est...
En parlant d'Israël.
Oui. Alors, Vincent Jory, archives de Bert Bendler aux éditions Grasset. C'est pas mon père ce héros, c'est ma grand-mère mon amour, c'est ça?
Oui, on pourrait le résumer comme ça.
Oui, quand même. Donc, oui. Vous renouvelez le concept de mère juive.
Oui, on peut le dire aussi comme ça. C'est un livre, pour aller dans votre sens, mais je m'en suis rendu compte il y a deux jours, donc c'était pas conscient quand j'ai écrit le livre, de réconciliation. Donc là, je vais dans votre sens, le mot amour correspond, oui. Puisque comme vous l'avez lu, c'est très... Voilà, en tout cas, la fin de sa vie a été très difficile.
Il y a quelques années, hein.
Il y a quelques années, il est mort en 2021.
À l'âge de
93 ans.
93 ans.
93
ans. Donc elle couvre pratiquement le siècle.
Oui.
Une femme assez extraordinaire. D'un côté, le pilier le plus solide de la famille, tout tourne autour d'elle. Elle fait en sorte. C'est la boussole. Elle est belle. On voit sa photo en bandeau autour du livre. Elle est irrésistible. Elle est athée. Elle est polonaise, je crois que ça reste toute la vie.
Elle d'origine, est polonaise, d'origine. Oui, elle est française.
Oui, pardon, elle est d'origine polonaise, moitié Shtetl, moitié Varsovie.
Exactement.
Ce n'est pas exactement les mêmes mondes.
Non.
Elle est impériale, elle est instable, elle est caractérielle. Ça fait beaucoup.
Chose à dire.
Ça fait beaucoup. Hein.
Ça fait beaucoup.
Et vous êtes son petit-fils.
Aîné.
Aîné, mais ouais, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous avez pris la place de son fils. Parce qu'il y a une haine entre son fils et elle. Enfin, son fils, là, est...
Oui, c'est ce que je dis au début du livre. Ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, bien sûr. C'est la dernière partie du livre, disons, les 20 dernières années de ma grand-mère et donc de sa mère. Mais voilà, je ne dirais pas que j'ai pris la place de mon père. Mais si vous voulez, c'est vrai que... Dans les 20 dernières années de sa vie, elle a été, comme je l'explique dans le livre, avec mon père, mais avec sa sœur, enfin avec sa fille, avec moi, avec tous ses petits-enfants. Pour le dire vite, elle a été très, très, très agressive.
Très possessive aussi.
Très possessive. Alors, elle est évidemment pour moi quelqu'un d'unique, mais en même temps, c'est un archétype parce que j'en parlais avec les lecteurs que je rencontre aujourd'hui, lecteurs, lectrices, juifs. Beaucoup se reconnaissent une grand-mère askénaze. C'est un peu un archétype de femmes très dures qui ont eu une vie difficile, comme je vous explique dans le livre.
L'occupation, la guerre,
et même avant la guerre, puisque dans les années 30, l'atelier de maroquinerie a fait une faillite retentissante.
C'était des sacs de voyage cousu-main.
Cousu-main, exactement.
Oui. C'était la marque de fabrique de la fabrique.
De la marque de la fabrique, exactement. Et donc, pour que ces femmes résistent et vivent jusqu'à 93 ans, il faut évidemment une personnalité très forte. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de femmes askénazes qui, du même tonneau, si je puis dire, et qui ne sont pas toujours très faciles à vivre, mais qui sont aussi admirables parce que, effectivement, il y a beaucoup de juifs askénazes qui se sont suicidés, où il y a on n'en parle pas si souvent, des dépressions, etc. Et ma grand-mère, c'est vrai, jusqu'à la fin de sa vie, a été c'est le portrait que j'en fais, quelqu'un de très combatif.
Oui, mais les dernières années, très désenchantée, amère, pleine de ressentiment.
Oui, parce que c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire qu'elle est très... Elle a eu une vie, j'essaye vraiment ça quand même de mettre en avant, elle a quand même eu des années de bonheur, notamment les années 60, elle a eu des belles années, mais à la fin de sa vie, il y a eu un retour un peu du refoulé de ces jeunes années, de ce qui s'est passé, de la traque anti-juive qu'elle a subie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et puis, des secrets de famille, de ses propres secrets à elle, parce que vous dites qu'à la fin, c'est son frère Victor est mort en déportation, et... En fait, elle se sentait coupable. Elle est remplie de honte parce que ce que vous ne révélez qu'à la fin. Mais elle-même, je suppose, ce n'était pas un sujet de conversation. Vous ne deviez peut-être pas le savoir à l'époque. Non. Elle-même savait qu'il y avait dans leur petite bande, quand ils étaient jeunes, un miliciens. Et c'est sûrement lui qui a été le délateur, qui a envoyé son frère.
Tout à fait. Alors ça, on en est sûr. Il y avait deux miliciens. Et j'ai d'ailleurs retrouvé dans les archives de Béziers, parce que l'arrestation s'est faite à Béziers, un des deux miliciens qui... alors là, c'est un personnage très modianesque, si je puis dire, qui... alors, selon... J'ai une archive, hein, donc il faudrait... si j'étais historien, il faudrait évidemment... Mais c'est la seule information que j'ai eue, qui travaillait... en sous-main pour la Gestapo, qui donc dénonçait des juifs, pour être tranquille, et d'une autre main, faisait partie de mouvements de résistance français.
Oui, ça.
C'est en tout cas dans un procès verbal que j'ai eu. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé.
Mitterrand aussi était comme ça,
paraît-il. Exactement, j'ai pensé à Mitterrand. Ouais. Qui, je crois, n'a pas dénoncé de juifs, mais bon, il y a la Francisque.
Non, il n'a pas dénoncé de juifs, et puis c'était autre chose. Il était à Vichy pour les prisonniers de guerre, et après il a continué, mais bref, Mitterrand, c'est encore un autre chapitre. Mais il y a à deux, trois reprises, vous dites, ça c'est typiquement juif. Par exemple, une volonté toute juive de se singulariser. Vous croyez que c'est comme les aristos. Vous pensez que c'est caractéristique des juifs, ça?
J'ai quelques amis juifs, j'ai ma famille. Je trouve que ça pourrait être une des caractéristiques, oui.
Et aussi le sentiment d'en être et de ne pas en être une particularité juive.
Ouais. Écoutez, c'est aussi un constat, c'est pas une approche scientifique. En tout cas, je l'ai constaté chez moi, j'ai constaté dans ma famille, j'ai constaté chez mes amis, donc je pense que ça... Et puis j'ai constaté évidemment chez ma grand-mère. Oui. J'ai aussi tiré cette
Le fil d'Ariane de tout votre livre. Il se passe des tas de choses. Vous nous faites visiter Champéry, formidable, une station de sport d'hiver.
Je connais
dans le canton du Valais.
Ouais.
Et qui est, pour vous, c'est la maison où toute la famille se retrouve.
Exactement. Depuis 1981. Effectivement, ce que je raconte, c'est qu'après-guerre, dans les années 60 plutôt, quand l'atelier reprend et marche bien.
L'atelier de sac,
oui, ils reprennent l'atelier de sac. Après l'arianisation, ils refondent un atelier pour une troisième fois, puisqu'il y a eu cette faillite, l'arianisation, puis après-guerre, ils refont. Et donc, ils partent au sport d'hiver, ils aiment beaucoup la montagne, mais en Suisse, à chaque fois en Suisse, parce que pour ma grand-mère, c'est au cas où de nouveau en France l'État trahirait les Juifs,
sécurité.
Elle trouvait que c'était une bonne idée d'avoir quelque chose dans un autre pays. Et donc ils ont, pendant des années, ils ont fait plusieurs stations, dont Grand Montana qui a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, jusqu'au moment où ils ont trouvé ce village dont ils sont tombés tous les deux amoureux.
Et qui est devenu un point central pour la famille Bendler.
Et qui est devenu un point central
pour la famille Bendler. C'est aussi la famille Jory.
Oui.
Mais la famille Jory, avant de s'appeler Jory, s'appelait...
Jorovitsky.
Jorovitsky.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas une perte de quelque chose d'important par la perte du nom d'origine?
Alors, j'aurais tendance à vous répondre oui. Après, il y a une histoire, c'est 1957, donc quand même peu de temps après la guerre. Mon père, qui était à l'école communale, il est en 49, oui, c'est ça, donc derrière la place Clichy, dans la cour, s'est fait, on dirait aujourd'hui, harcelé par un petit garçon qui s'appelait Jacques, et qui, à chaque récréation, venait le voir et lui disait « Écoute, si tu ne te convertis pas au catholicisme, tu termineras en enfer ». Donc mon père rentrait évidemment apeuré et larmoyant chez ses parents. Et donc mes grands-parents ont décidé de changer de nom à ce moment-là, en se disant que finalement l'antisémitisme était encore, malgré tout, était encore présent.
Oui, mais à un moment même, plus tardivement, quand il va y avoir l'affaire Mohamed Merah, donc à l'école Zertora à Toulouse, la famille va supprimer... Enfin, c'est votre grand-mère.
Ma grand-mère.
Qui demande à ce qu'on supprime sur l'interphone de l'immeuble Bendler et qu'on laisse juste Jory.
Oui, tout à fait.
C'est un peu comme aujourd'hui, des gens qui arrachent leur mezouza.
Complètement.
De leur porte.
C'était début des années 2000. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Elle prenait toujours un bus qui est le 95, qui l'amenait de chez elle jusqu'à l'Opéra, le Louvre, tout ça. Et puis après, elle se promenait. Et puis, elle entendait c'est ce qu'elle me racontait en tout cas. Elle entendait des choses dans ce bus qui ne lui plaisaient pas, sur les Juifs, sur Israël, etc. Et elle a commencé. Donc, c'est vraiment très concret. Hein, c'est une histoire très, comme souvent, quotidienne. Et c'est vrai qu'elle a décidé de retirer son nom. Ouais.
Alors, à travers ce portrait très très sensible de votre grand-mère, mais surtout des rapports entre un petit-fils et sa grand-mère, on voit beaucoup d'autres choses, et notamment votre retour, en quelque sorte, vers ce judaïsme, peut-être qui au départ était un petit peu plus éloigné. Mais quand vous revenez à fond, c'est-à-dire les écrivains américains, pour vous, c'est Saul Bellow, Philip Roth,
Norman Mailer,
ouais. Comme par hasard, ouais. Trois juifs. Et puis un romancier français, ça ne peut être que Proust, le plus grand. Donc vous y allez, comme si vous vouliez rattraper quelque chose.
Alors, j'étais jeune quand même,
oui.
et c'est ce que je raconte, c'est-à-dire que j'aimais effectivement beaucoup ma grand-mère, je passais beaucoup de vacances avec elle en été aussi à Champéry. Et donc, je voulais plaire à ma grand-mère. Et ma grand-mère était, comme on le dit dans le livre, elle était effectivement absolument pas pratiquante et croyante. Vraiment, ça n'existait pas pour elle. Mais elle était très, très juive. Elle parlait des juifs du matin au soir. Donc, les juifs, ça passait à aller de la Shoah à Israël, quoi, hein, grosso modo. Donc, moi, j'ai quand même baigné dedans depuis tout petit. Hein, là.
Israël, où sa fille vit aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. Elle est partie à... Elle
est partie...
Tante Elisabeth.
Mais qui vous a raconté beaucoup de choses, puisque vous avez nourri...
Grâce à elle, j'ai eu évidemment beaucoup d'informations. Mon père est plus taiseux sur ces questions-là. Donc, heureusement, Elisabeth m'a beaucoup aidé dans mon travail de recherche. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque quand vous parlez d'Elisabeth, elle a plusieurs fois proposé à ma grand-mère, donc à sa mère, de venir en Israël. Et là, c'est tout le paradoxe de ma grand-mère qui parlait d'Israël matin, midi et soir, qui a toujours refusé de s'installer en Israël. Parce que, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est quelqu'un qui se sentait très, très français. Pour elle, la France... C'était très important, malgré la trahison de Vichy, malgré aussi une méfiance vis-à-vis de l'État français, qu'elle a gardée jusqu'à la fin de sa vie, qui s'est d'ailleurs traduit politiquement. C'est quelqu'un qui a toujours été à droite, je dirais, pour cette raison-là. Moins il y a d'État, mieux elle se portait. Et donc elle ne s'est jamais installée en Israël. Elle a appris l'hébreu, quand même. Pas tout à fait à la fin de sa vie, mais à 70 ans.
Un mélange.
Mais le fait de s'installer...
Elle est allée faire des séjours ?
Ah oui, quand même. Ah non, elle connaissait bien. Et sa propre mère s'était installée en Israël dans les années 70. Donc il y avait en plus... Il y avait une famille.
Et puis dans votre famille, notamment avec votre grand-mère, à la fin de sa vie, elle a le don de lâcher parfois des phrases... dur. Par exemple, elle vous dit à un moment, je n'ai jamais aimé ton grand-père.
Ouais.
C'est terrible de dire ça à un petit-fils. Ouais. Et puis le grand-père en question, qui a donc perdu un de ses deux fils, qui a été déporté. Ouais. C'est ça.
Ah non, non.
Non, c'est l'autre.
Là, ça, c'est son mari.
Son mari.
Albert Jokowski.
Oui, pardon.
Non, celui qui a perdu son fils, c'est le père de ma grand-mère, Isaac.
Voilà. Et qui ose dire après, quel dommage que ce soit lui qui soit mort et pas toi. Vous savez que cette phrase, on la retrouve chez Simenon. La mère de Simenon, qui a perdu un fils, l'un des deux frères de Simenon, a dit un jour à Georges Simenon, qui s'occupait d'elle dans ses vieux jours, quel dommage que ce soit Christian qui soit mort et pas toi. Il faut oser dire ça.
Ah, c'est fou.
Ben, c'est terrible. Quoi. C'est...
Même quand on est âgé, etc. Ouais. Vous dites que la vieillesse change les êtres, mais en quoi ? En pire ou en mieux ? Là, c'est plutôt en pire.
Bah pour elle, en tout cas, je dirais même plus pour elle que pour nous. Bon, nous, on a subi, mais oui, elle a eu une fin de vie quand même, on peut le dire, difficile. Quoi.
Alors, vous dites à la fin, écrire, c'est faire mourir.
Ouais.
Quand j'ai terminé votre livre, je me suis dit plutôt écrire, c'est ressusciter.
Alors non, j'ai dit les deux. Je dis qu'il y a un double mouvement. Ah non, alors je suis sûr de ce que j'ai dit. Je dis littérature, c'est un double mouvement, il y a une résurrection. D'ailleurs, je le dis au début du livre. C'est vrai que je pense que quand on finit un livre, comme ça, sur, on a l'impression quand même de clore une histoire.
Oui.
Une histoire narrative, mais aussi une histoire humaine.
En tout cas, c'était un livre très sensible. Et je suis sûr que beaucoup de lecteurs, pas tous ashkénazes d'ailleurs, nous pourrons s'y retrouver.
Dans les lettres aussi, on ressuscite quelqu'un, puisque les lettres ont été écrites tel jour à telle heure, et elles sont souvent pleines, elles ont une présence.
Ce sont des notes à leur date.
Oui.
Ouais. Et puis, c'est écrire une lettre, c'est avoir une conversation avec un inconnu, enfin, conversation.
Et quand on pense en plus que ces lettres-là, c'est un peu la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que même avec certains destinataires, il y a certainement d'autres lettres qui sont chez des collectionneurs privés, qu'on ne retrouve pas dans les archives, etc. Donc c'est un livre un peu qui ouvre, malgré tout.
Alors,
j'aurais voulu aussi... Juste vous demander à vous... Zweig ne s'exprime jamais sur le sionisme, justement, pour revenir là-dessus. C'est que la question du sionisme ne l'a jamais intéressé.
Si. Alors, quand on... Il a connu Herzl, lorsque Herzl était encore un journaliste à la Neue Freie Presse, puisque c'est grâce à Herzl que Zweig a publié son premier texte en 1901. Mmh. Et en 1929, c'est-à-dire 25 ans après la mort de Herzl, il écrit un très joli texte qui s'appelle « Souvenir ». De Theodor Herzl, et il raconte, c'est très intéressant et amusant en même temps, parce qu'il raconte l'effet qu'a produit à Vienne, parmi les juifs assimilés viennois, la théorie et les prises de position et le livre de Herzl, en disant que ça avait vraiment scandalisé tout le monde, alors que Herzl était extrêmement connu et révéré et apprécié, comme un homme charmant, très brillant, qui écrivait des romans, qui écrivait des articles, qui était absolument inséré dans la vie culturelle viennoise. Et tout d'un coup, il lance ce pavé dans la mare pour les juifs viennois.
Alors,
Et il y revient dans Le Monde d'hier, d'ailleurs. Il raconte ça aussi en grand détail.
Oui, c'est vrai.
Parce que le sionisme, c'est-à-dire, il n'est pas anti-sioniste, même au sens historique du terme, il est pro-diaspora. Oui, vraiment, sa conception, c'est comme Buber, un peu. Hein.
Ouais,
Martin Buber, avec qui connaissait, qu'il a bien connu aussi, il considère que les Juifs, un peu partout dans le monde, c'est un ferment pour l'humanité et pour la paix et pour les valeurs humanistes dans le monde.
Universelle.
Et,
la vocation. Ouais. Pour clore cette émission, il y a toujours deux coups de cœur. Je les ai choisis sans penser à vous, mais je suis sûr qu'il y a des passerelles et que vous allez vous précipiter pour me les voler. ça, c'est Michael Dichter. Le titre, c'est « On l'appelait Benny Diamond, Diamant ». C'est paru aux éditions Les Léonides. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un roman. Alors, vous vous en doutez, ça se passe dans le milieu des diamantaires. Et ça s'ouvre sur des citations du Talmud. Et la première scène se passe dans un shtetl de la région de Cracovie, chez les Hasidim, le jour de la naissance d'un garçon. « Tu seras un mensch, mon fils hein, », en quelque sorte. Cela dit, l'essentiel se passe à Anvers, dans les années 70, du temps où il y avait encore un vrai quartier de diamantaires juifs à Anvers, avant que leurs employés indiens deviennent eux-mêmes les diamantaires et que les juifs partent à la bourse de Tel Aviv, bourse du diamant de Tel Aviv. Le personnage titre, Benny Diamond, d'abord c'est pas son nom, il a modifié son nom, il est né dans le diamant parce que son grand-père était diamantaire déjà. C'est une histoire de transmission. En fait, son père est les shamash de la synagogue, donc dans le shtetl. Et le fils vit cette vie religieuse très ultra pratiquante avec un père ultra pratiquant. Mais quand il voit tous les fidèles qui viennent dans cette synagogue et qui saluent le shamash, bien sûr, il dit, mais voilà, des gens puissants, riches, j'aimerais être comme eux. Et donc, dès qu'il pourra, il va quitter le shtetl et tout ce qui va avec pour aller à Anvers, pour apprendre le métier très jeune et y exceller. C'est là qu'il trouve sa transcendance. Dans les diamants, à la bourse du diamant, il en fait son métier avec une ambition tenace et une ascension terrible dans un ce qui est quand même un microcosme. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier des Diamantaires à Anvers, c'est un microcosme. On a l'impression qu'il y a un microclimat juste au-dessus. il ne s'est pas que des amis parce que... bon. Donc c'est un roman d'apprentissage qui est le premier roman de Michael Dichter, qui est un jeune réalisateur et acteur, qui est inspiré d'histoires vraies. C'est drôle, c'est bien mené, très dialogué, un peu trop peut-être, mais ça c'est l'influence, je suppose, du cinéma. En tout cas, c'est un premier roman très prometteur pour la suite. Même si vous ne parlez pas le yiddish, vous comprenez tout. C'est très savoureux et édifiant. Évidemment, il y a aussi une histoire d'amour, hein, avec une certaine Ève. Et évidemment, il a changé de nom. Mais là aussi, il y a une histoire de transmission entre le grand-père et le petit-fils. Ah. Comme quoi, on n'en sort pas. C'est avec le nouveau thème. Et puis alors ça, 22 Mapsbury Road de Rachel Cockrell. C'est le livre le plus étrange que j'ai lu depuis de la rentrée et qui est un livre captivant. Ouais. Mais alors, la forme, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est publié aux éditions du Quai Voltaire. Ah, oui, c'est très, très déroutant. Même le projet littéraire est très déroutant. Ça se présente. Alors, c'est pas un roman, c'est pas un récit. Ça se présente comme un dossier qui contient des mémoires, des discours, des lettres, des photos, des entretiens, un monde fou. On croise Churchill, Dos Passos, Zweig. On croise Zweig, Roosevelt et d'autres. Au départ, l'auteur, Rachel Cockrell, voulait juste raconter l'histoire de sa famille à partir de leur grande maison à Londres, dans les années 40. Bon, jusque-là, ça va. Et puis, son enquête l'a menée bien plus loin, tellement loin que est apparu son arrière-grand-père. Et là, deux personnages s'imposent. Theodor Herzl, incroyable, hein, et Israël Zangwill. Le romancier, le Dickens juif, comme on l'appelait, le dramaturge, l'auteur de Hadgadia et l'auteur du Roi de Schnorrer, qui sont des best-sellers de l'époque. Alors, on sait que Herzl avait été voir Zangwill pour lui dire « Aidez-moi à fonder l'État juif ». Mais au fil des premiers congressionnistes, ils vont s'éloigner car Zangwill plaide pour un sionisme territorialiste, c'est-à-dire détaché de la Palestine. Et là, on est au cœur du sujet. Vous connaissez Galveston ? C'est un bled, si je puis me permettre. C'est un bled de 50 000 habitants aujourd'hui, qui est sur un îlot au large du Texas. Et c'est là que Israël Zangwill voulait implanter les Juifs.
Ah, ben voilà, c'est ça. Oui,
c'est une terre promise, c'est une terre promise de substitution dans le golfe du Mexique. Et d'ailleurs, Zangwill disait en 1906, cette phrase qui est citée en épigraphe du livre, « Si nous ne pouvons pas obtenir la terre sainte, nous pouvons faire sainte une autre terre. » Ce que je trouve assez gonflé. Alors pourquoi pas cet endroit battu par les... voilà. Le titre original, c'est « Melting Point ». C'est un problème pour les traducteurs, le titre. Hein. Et là, Myriam Anderson, qui a traduit de l'anglais ce livre, elle n'allait pas garder le titre original, parce que « Melting Point », c'est un jeu de mots sur « Melting Pot ». Et en fait, « Melting Point », c'est le point de fusion. On ne va pas appeler ce livre « Point de fusion
». Pourquoi pas, en fait ?
Oh non, mais tout le monde va se sauver. Là, « 22 Mixbury Road », c'est beaucoup plus fort. Mais en fait, j'ai rarement lu un livre qui est fondé sur une enquête aussi poussée pour pas venir à un tel bric-à-brac. C'est vraiment le balagan à l'intérieur. Mais c'est parfait parce que tout est méticuleusement sourcé, rangé et c'est passionnant. Donc, je vous le rappelle, mais je suis sûr qu'il apparaît derrière moi. C'est aussi assez frappant. Voilà, c'était les 5 livres. Merci à tous les trois d'y avoir participé.
Et merci à vous.
Merci à bientôt. Pour votre invitation.